RCF.
La terre, la graine, la brassée des gerbes de blé, mais aussi les branches du moutardier et les oiseaux du ciel, l'évangile de ce dimanche nous invite au jardin. Jésus, s'inspirant de la campagne qu'il connaît pour la traversée de long en large, propose deux paraboles à ses auditeurs. Deux courtes histoires pour évoquer le royaume, ce fameux règne de Dieu dont ses interlocuteurs voudraient bien enfin voir la couleur. Pour commenter ce passage, je reçois cette semaine l'écrivain Marie-Laure Choplin. Nous commençons par écouter la parole chez Marc, chapitre 4, versets 26 à 34.
Parlant à la foule en parabole, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
Marie-Laure Choplin, il nous faut resituer le contexte de la parole que nous venons d'entendre. Nous sommes chez Marc. Jésus commence son ministère public avec une séquence où, après avoir choisi ses disciples, il se met à enseigner la foule et il est au bord du lac. Et alors, Marc nous dit qu'il utilise des paraboles. On va commencer par ça. Qu'est-ce que vous diriez sur ce qu'est une parabole ?
J'ai entendu tout récemment une expression que je trouve magnifique pour résumer ce que c'est qu'une parabole. Malheureusement, je ne me souviens pas de son nom à ce monsieur, mais il disait « Une parabole, c'est une fenêtre sur le monde de Dieu ». En fait, c'est une façon, le texte le dit très bien d'ailleurs, ce que c'est que la parabole, c'est un récit pour faire entendre quelque chose, pour donner à comprendre quelque chose. Quand le texte, en parlant de la graine de moutarde, dit « Par quelle parabole pouvons-nous le représenter, le règne de Dieu ? » Il y a une traduction qui dit « En quelle parabole allons-nous le poser ?» Donc c'est vraiment pour faire entendre quelque chose. La parabole est un récit qui donne à voir par des images, des choses qui parlent immédiatement aux personnes.
Est-ce qu'on peut dire que ça se rapproche du conte ?
Oui, probablement qu'il y a quelque chose qui se rapproche du conte dans le récit, dans le nouement et le dénouement, dans donner à entendre par des images et par des événements, et par une histoire. Il y a un début, parfois il y a une forme de suspense dans certaines des histoires en paraboles que Jésus rapporte. Et d'ailleurs, dans les deux petites paraboles que nous avons là, même si elles sont très courtes, il y a quelque chose de saisissant, comme il peut y avoir dans un conte.
Juste avant le passage que nous allons commenter, Jésus dit « Prenez garde à ce que vous entendez, de la mesure dont vous mesurez, il sera pour vous mesurer ». Il vous sera ajouté. Il est question là donc d'écoute, de rapport au monde aussi, de la manière de se situer par rapport à tout ce qui peut faire sens autour de nous.
Oui, absolument. Il y a vraiment un rapport entre comment je me situe, comment j'entends, ce travail de mon oreille, cette façon dont je veux disposer mon oreille et mon rapport au monde, comme vous dites. C'est de ça que va dépendre que Jésus va pouvoir apporter. D'ailleurs, ça me fait penser, et c'est dit dans ce chapitre 4-là, et puis c'est dit à d'autres passages de l'Évangile, ces phrases toujours un peu dérangeantes, qui est « plus on a, plus on va avoir ». Mais là, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire, plus on entend, plus on va pouvoir recevoir. Ça paraît une lapalissade, mais en fait, ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que plus notre oreille va être ajustée, et je crois que c'est ça que Jésus fait avec ses disciples, il leur travaille l'oreille, et alors ils peuvent entendre davantage.
Reprenons avec vous, Marie-Laure Choplin, l'évangile de ce dimanche, verset après verset. C'est Jésus donc qui s'adresse à la foule Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment. Qu'est-ce que vous diriez sur ce premier verset ?
D'abord, je me laisserai étonner par le fait qu'on compare le règne de Dieu à un homme. Parce qu'il me semble qu'on le lit maintenant comme si c'était une évidence. Enfin, c'est très surprenant. Je ne sais pas si chacun pouvait imaginer là maintenant, règne de Dieu, qu'est-ce qu'il associerait comme mot ? Est-ce que le premier mot qui viendrait, c'est homme ? Donc je trouve très surprenant déjà qu'on puisse comparer ça à un homme, c'est-à-dire aussi que mon humanité et quelques rapports, aussi symboliques soient-ils, mais aussi dans le sens fort, puissent m'enseigner quelque chose de ce que c'est que ce royaume et ce règne. Donc là, le règne de Dieu ou le royaume, les deux traductions existent, est comparé à un homme. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il jette en terre la semence. On verra que c'est quasiment le seul geste que lui fait, dont il est vraiment l'auteur, à part le geste final.
Avec la moisson à la fin.
Voilà.
Qui est un autre geste.
Finalement, c'est ça qui est très étonnant. Les deux seuls gestes qui appartiennent à cet homme, dont on nous dit qu'il ressemble au royaume, c'est le geste d'ensemencer, d'initier, de commencer, et c'est le geste de finir. Et au milieu, il se passe des choses, dont la chose que vous avez lue, qui est si étonnante, c'est-à-dire qu'après, c'est le travail de la semence. C'est elle qui germe, c'est elle qui grandit. Et ce qu'on nous dit, ces deux choses, c'est que cette germination et cette croissance, elle n'a pas de rapport avec le rythme de l'homme. Que ce soit de nuit, de jour, qu'il dorme, qu'il se lève, ça n'a pas d'influence sur cette germination et cette croissance. Et la deuxième chose qu'on nous dit, c'est qu'il ne sait pas comment. Donc tout ce démarrage de croissance se passe dans l'ombre et on n'en sait rien, ni du rythme, ni de quoi ça dépend.
Au sujet du royaume, il semble ici que ce règne ressemble davantage à un geste, un processus, plus qu'à un royaume terrestre, bien sûr.
Alors, je suis bien contente que vous disiez ça, parce qu'il me semble que quand on le commente, on ne s'étonne pas assez. Si on entend vraiment que c'est l'homme qui est à l'image du royaume, et il me semble qu'on glisse souvent pour le mettre ailleurs, le royaume. Si c'est bien cet homme-là qui ressemble au royaume, il est, j'allais dire, d'une absence d'intrusion incroyable. Parce qu'effectivement, il y a le geste de lancer dans la vie, on pourrait dire. Et il y a le geste de mettre un terme. Mais au milieu, toute la force, elle est dans la semence. Alors la semence, c'est lui qui la détient et c'est lui qui la jette dans l'existence, on pourrait dire. Mais quelle différence avec la façon dont on imagine, nous, dès qu'on dit le mot règne ou royaume, on imagine une intervention, un pouvoir de faire, un pouvoir de changer. C'est ça qui caractérise dans nos imaginaires et nos représentations.
Et là, il n'y a pas de faire.
Il n'y a pas de faire et il y a très peu de puissance à l'œuvre, à part le premier geste et le dernier, et à part l'immense puissance de cette semence.
Marie-Laure Choplin, l'évangéliste Marc nous dit « Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. » Nuit et jour. On peut penser au livre de la Genèse, à cette alternance du jour et de la nuit, et qui nous rappelle finalement que le don est premier. Le faire n'est pas là tout de suite, mais le don de la vie est premier.
Le don de la vie est premier. Et puis, par rapport à ce que vous disiez sur l'interprétation qui est libre, nuit et jour, c'est aussi les moments où je suis productif, ceux où je ne suis pas productif, ceux où j'y vois clair, ceux où je n'y vois pas clair. C'est pas ça qui est premier dans la croissance, alors que je crois que pour beaucoup d'entre nous, c'est bien ça qui est premier dans nos représentations. On se dit, mon Dieu, il faut que je fasse, sinon ça va pas marcher. Là, c'est tout à fait autrement le mouvement qu'on voit.
Donc nous ne sommes pas dans la maîtrise, mais plutôt dans une action qui se développe en dehors de nous, qui est la vie, finalement.
Absolument, qui n'est pas en rapport là, à part le premier geste, avec notre action, et qui n'est pas non plus en rapport avec notre savoir. Or, nous, c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Quand on ne peut pas faire, on compense souvent par vouloir savoir, au moins savoir. Si je ne peux pas agir, au moins je pourrais contrôler. Or là, il s'agit ni de faire, ni de savoir, ni de comprendre comment ça se passe.
Alors il y a une focale sur la semence, on nous dit elle germe et grandit, elle fait sa vie toute seule finalement.
Elle fait sa vie toute seule. Une fois qu'elle a été jetée, alors peut-être, il y a un petit mot, on est passé vite sur la terre. On est invité à y prêter attention à cause de la première parabole du chapitre qui met le regard sur où est-ce qu'elle tombe cette graine pour pouvoir pousser.
Oui, et dans la bonne terre.
Dans la bonne terre. Donc là, c'est dit rapidement, mais on voit quand même que cet homme qui jette la semence, il la jette en terre, pas n'importe où. Et après, on verra que la terre a d'ailleurs de l'importance.
Jésus devient presque botaniste dans cette finalement histoire qu'il raconte à ses disciples et à la foule, puisqu'il se met à détailler avec précision le processus D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Qu'est-ce que vous diriez là sur cette manière de parler ?
Il y a un vrai changement pour moi avec la phrase qu'on vient de voir avant. Le premier changement, c'est que là, d'une certaine façon, c'est la terre qui produit. On laisse la graine, pour l'instant, un peu de côté, si je peux dire. C'est la terre qui agit. Et ça, je crois que ça pourra nous donner aussi des choses à entendre par rapport à notre vie tout à l'heure, quand on viendra à ce sujet. La deuxième différence, c'est que là, cette fois, dans la première phrase, on ne savait pas du tout comment ça se passait. Ça se passe, mais on n'en sait rien. Là, il y a un vrai ordonnancement. Ça se passe dans un ordre. C'est d'abord une chose, et enfin une chose. Et du coup, on entend aussi qu'il faut du temps. Le premier, le temps, il disparaît, si on peut dire. C'est nuit et jour, c'est jamais, c'est toujours. Il n'y a aucune chose qui nous permet de nous caler sur le temps. Là, on sent qu'il y a une chose avant l'autre. Ça ne peut pas se passer n'importe comment. Et que ça demande du temps. Donc, un ordonnancement et du temps.
Et puis, il y a ce petit mot plein, plein l'épi, qui nous fait entendre l'abondance.
Oui.
Un thème très fort dans les évangiles.
Abondance et plénitude. Le terme, c'est ça. Le signal, on le verra juste après, le signal que le processus est terminé, c'est plénitude et abondance.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Lisons avec vous, Marie-Laure Choplin, la fin de cette première parabole. Dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Sœur Jeanne d'Arc traduit « quand le fruit se livre ». Aussitôt, il envoie la faucille parce que la moisson est là. C'est comme si le fruit se donnait, finalement.
Je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup cette traduction de Sœur Jeanne d'Arc parce qu'elle met en évidence exactement ce que vous dites. C'est-à-dire... Là, c'est un sujet vraiment d'étonnement dans ce récit. On parlait de conte là tout à l'heure. On pourrait penser que le moment du fruit, quand même là, de nouveau, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Mais le fruit, il se livre. Ça me fait penser, vous savez, à ces pédiatres ou pédopsychiatres qui disent à propos du bébé qu'il choisit sa naissance. Il y a des personnes qui disent ça, qu'il y a quelque chose de mystérieux là dans la naissance et que c'est le bébé qui l'enclenche.
Qui choisit le moment où il va naître.
Qui choisit le moment d'arriver au monde. Et là, moi, j'entends vraiment quelque chose comme ça. Effectivement, le fruit se livre lui aussi. Alors qu'on pourrait avoir l'impression que ça, au moins, c'est moi qui le décide. Ou c'est l'homme qui le décide, l'homme dont il est question là. Donc, ce n'est pas l'homme qui le décide. C'est le temps de moisson qui arrive. Le fruit qui décide de se livrer. En revanche, lui, du coup, cet homme-là dont on nous dit que c'est le royaume, à quoi doit-il être attentif ? C'est à mettre la faucille, parce que ça lui appartient, et le mettre dès que le blé est mûr.
Donc c'est le deuxième geste, hein. Il y avait l'action de semer, et là, il va y avoir l'action de moissonner.
Voilà, il a semé dans la terre, ensuite le processus s'est passé de lui-même, par la force de la semence et par la puissance de la terre. Et lui, il met la faucille. Et dans ce geste de mettre la faucille, il y a deux choses que je trouve vraiment importantes à souligner. C'est d'une part que ça se fait quand le temps de la moisson est arrivé. C'est ça le signal. Mais ça se fait aussi dès que le blé est mûr. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quand la moisson est arrivée. C'est, il faut le faire dès que le blé est mûr.
Marie-Laure Choplin, nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que c'est chez Marc. Chapitre 4, versets 26 à 34, Jésus est en train de parler à la foule en parabole. Alors après la petite histoire que nous venons de commenter, il en propose une autre. Il commence par dire « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?» C'est intéressant, on a l'impression que Jésus cherche son inspiration devant tout le monde là.
Oui, c'est très émouvant ce « nous » qui arrive là, je trouve. C'est vraiment ça, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans ce qui nous parle pour représenter ? Je vous citais cette phrase-là que j'aimais beaucoup, cette traduction. Dans quelle parabole allons-nous le poser ? Oui, c'est ça. Je crois qu'il cherche avec les personnes, c'est vraiment cette histoire toujours d'ajustement de la parole, quelle histoire va pouvoir rendre un peu compte de cette histoire-là, de royaume.
Et Jésus continue, ce royaume, il est comme, encore le comme, il est comme une graine de moutarde quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences. Alors nous avions l'image d'un semeur, et voici que nous resserrons la focale sur une minuscule graine qui tombe dans la terre. Donc c'est une autre manière de poser les choses.
C'est une autre manière de poser les choses. Alors, tout à l'heure, on s'étonnait qu'une chose qui nous paraît à nous aussi grandiose que le règne ou que le royaume puisse être comparée à un homme. Alors là, c'est bien pire, c'est comparé à une graine de moutarde. C'est bien pire parce que, j'allais dire, c'est plus petit et c'est une chose, même si c'est une chose vivante. Mais aussi parce que la graine, elle peut même pas, elle, du coup, décider de quoi que ce soit. La graine, elle est, avant d'être livrée à la terre, elle est livrée à on. On ne sait pas c'est qui ce on-là, quand on la sème en terre, on la sème. C'est-à-dire, la graine, alors là, pour le coup, autant l'homme, il pouvait choisir. Enfin, c'est lui qui faisait ce premier geste initial. Autant la graine, elle ne peut rien d'elle-même. Pouvoir entendre que le royaume est comparé à une chose qui ne peut rien d'elle-même, je crois que ça donne vraiment à entendre. Jésus vient là raconter une histoire, effectivement, qui nous apprend vraiment quelque chose de ce règne de Dieu. Parce que cette graine-là, si on n'en fait rien, il ne se passe rien.
Jésus dit que quand la graine de moutarde a été semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Que vous inspirent ces branches qui offrent l'hospitalité aux oiseaux ?
Ouais, moi, je resterai bien longtemps, moi, personnellement, avec cette image-là que je trouve vraiment magnifique. La première chose que ça me fait voir, c'est longue branche, parce qu'elle aurait pu s'arrêter avant. Non seulement elle dépasse toutes les autres plantes, mais elle l'étend de longues branches. C'est-à-dire que cette graine-là, elle n'est pas seulement petite, c'est la plus petite de toutes. Avant d'être semée, en tout cas. Moi, ce que je voudrais juste laisser résonner par rapport à ça, c'est la plus petite des graines. Si on la met en terre, si on fait son travail, elle est capable d'héberger quelque chose du ciel. Alors on pourrait dire, bien sûr, que les oiseaux du ciel, c'est une image et ça l'est. On peut aussi se rappeler les textes que ça convoque, et je pensais à celui justement à propos de semences et d'oiseaux, où il est dit que les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, le Père en prend soin. Déjà, dans ce texte-là, il y a quelque chose qui nous invite du côté des résonances de la confiance, de la gratuité et de la confiance dans ce qui va se passer. Mais juste entendre qu'une toute la plus petite des choses mises au fond de la terre puisse donner quelque chose qui peut héberger, quelque chose qui est en rapport avec le ciel, je trouve qu'il y a de quoi faire.
Lisons avec vous, Marie-Laure Choplin, la fin de l'évangile de ce dimanche. Marc précise par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Comment interprétez-vous ce verset ?
D'abord, je crois que ça remet la lumière sur de quoi parle ce texte. Et en fait, il parle de la parole, je crois, essentiellement, que c'est une des façons d'entendre le texte. L'objectif de ces récits, ce que Jésus poursuit, c'est d'annoncer la parole. Donc après, voilà, libre à chacun d'entendre comment les deux petits récits sur lesquels on est revenu un peu en détail peuvent donner quelque chose à entendre de cette œuvre si puissante de la parole. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de revenir sur dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. C'est-à-dire, on voit Jésus tout au long de l'évangile faire cela, parler dans cette mesure qui est celle où on peut entendre. La phrase d'après, là, quand il précise, il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Moi, j'entends le tout, il le donne en parabole à la foule, et le tout, il le donne aux disciples en parabole et aussi avec des explications.
Mais on se dit, chic, ils ont de la chance, ils ont des explications.
Voilà, on peut se dire, ils ont de la chance, et même on pourrait se dire, c'est un peu injuste que les autres n'aient pas le droit à l'explication. Moi, je l'entends un peu, la parabole protège la parole que Jésus livre et donne. Il la protège de quoi ? De la tentation de la tordre. Je crois que la parabole, d'une certaine façon, empêche les personnes de se saisir de ce qu'il y a dedans pour le tordre. Comme on le voit bien, les disciples eux-mêmes le font. Je donne un exemple très concret. On parle de royaume et de règne. On voit bien que les disciples, tout au long de leur suivance du Christ, vont avoir vraiment du mal à ne pas projeter leur propre, comme nous d'ailleurs, représentation du royaume qu'ils espèrent et de la puissance et du règne. Les disciples, Jésus les croit suffisamment proche de lui pour avoir entendu que ce n'est pas ce royaume-là qui viendra, même si on voit qu'il est obligé de redire à Pierre des choses à ce sujet. Du coup, il peut avancer là-dessus. On est chez Marc. Marc, dans tout son évangile, montre un Jésus qui se méfie beaucoup de ce qu'on va dire de lui, qui se méfie beaucoup des rumeurs de sa puissance. Et il me semble que la parabole, sans explication, permet ça, permet de ne pas faire du bruit autour des images qu'on pourrait avoir de la puissance de Jésus.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Marie-Laure Choplin, nous avons pris le temps de regarder verset après verset l'évangile de ce dimanche. En quoi est-il une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui ?
Je crois que j'aurais envie de regarder les choses de façon un peu en détail. Si je repars de la dernière parabole, la bonne nouvelle, c'est que c'est une bonne nouvelle et c'est un sacré enjeu et c'est un sacré risque. La graine du royaume, elle nous est livrée. Le « on » là, moi je l'entends comme « nous », humains, et que cette graine-là, notre geste à nous, c'est de la mettre en terre. Mais ce n'est pas seulement de la mettre en terre, c'est avant de la mettre en terre, de ne pas avoir peur qu'elle soit si petite, et même la plus petite de toutes. Et l'invitation que j'y vois, une des invitations qu'on peut entendre là, c'est dans nos vies, les choses qui nous paraissent si petites qu'on se dit « mais ça ne vaut pas la peine ». Il faudrait quelque chose de plus grand, mais ça ne va rien donner. À quoi ça sert que je fasse ceci ou que je dise cela ? C'est tellement une goutte d'eau, on entend ça, hein, dans l'océan. J'entends cette deuxième parabole vraiment comme une invitation à la confiance. Notre responsabilité, c'est de ne pas être effrayé par la petitesse de la graine et de miser sur la force de croissance qui n'est pas notre puissance à nous, mais la force à l'intérieur de la graine. Donc à la fois une vraie responsabilité de la porter en terre, une vraie confiance, alors que, extérieurement, rien peut-être ne vient nourrir cette confiance. Et ensuite, le travail et la croissance, elle se fera de façon tout à fait, parce que c'est ça la pointe du texte, sans aucune commune mesure avec ce que nous, on avait vu.
Oui, encore faut-il y croire, parce que là, vous décrivez le processus de la foi, finalement.
Ouais.
Voir du minuscule et croire que ce minuscule peut donner de la fécondité, quelque chose qui va se tenir et qui va nous nourrir et qui va nourrir les autres. Donc c'est une question de confiance quand même.
C'est une question de confiance, c'est-à-dire effectivement c'est une question de foi dans le sens de faire confiance. Ce n'est pas une question de foi nécessairement religieuse, c'est une histoire de faire confiance. Et on pourrait emprunter, maintenant qu'on a regardé comment l'homme parlait du royaume, on peut aussi se dire, ce processus de fécondité, moi, comment je le vis ? Ça ne dépend pas de mon savoir et ça ne dépend pas de mon pouvoir. Du coup, la confiance, elle est vraiment à entendre comme ce qui est à faire de mon côté, cette petite chose à faire, je peux la faire. C'est mon travail d'humain de le faire. Et je crois qu'on cherche toujours la confiance comme une confiance en soi en ce moment. C'est vraiment la mode et c'est vraiment très très chouette qu'on puisse être conduit pour avoir davantage confiance dans ses ressources. Mais là, la pointe du texte, c'est justement lâcher cette histoire-là d'avoir confiance en vous ou pas. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est les petites choses qui n'ont l'air de rien. Ne les traitez pas de rien et mettez-les en terre. Après, la croissance dedans, elle va être absolument immense.
Et comment être témoin de cela ? Comment voir l'arbre qui pousse ? Parce qu'on peut aussi rester dans une espèce d'aveuglement et se dire finalement il ne se passe jamais rien. C'est une question là de regard, d'écoute aussi ?
C'est une question de regard et d'écoute et j'ai envie de dire c'est une question, il me semble pour moi en tout cas, de focale. Si on regarde toujours les choses de loin et seulement les grands mouvements, il me semble qu'on est rapidement dépossédé de sa confiance. Si on regarde les choses au plus près de nos vies, je crois que tout le monde a l'expérience qu'une parole change quelque chose. Je pense au deuil, par exemple. Le deuil, c'est vraiment une situation quand quelqu'un a perdu, je parle du deuil de quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un a perdu quelqu'un, on ne va rien changer. Personne ne peut y changer quoi que ce soit. Donc on pourrait dire, mais c'est peine perdue, mais à quoi ça sert? Or, tout le monde a l'expérience dans ces moments pour l'avoir vécu, qu'une parole, une présence, un geste a une importance énorme. C'est-à-dire, à la fois, ça ne change rien, la personne morte est toujours morte et je suis toujours endeuillée, et à la fois, ça change tout. Et je crois que c'est une image de cette toute petite graine, c'est qu'elle a l'air de ne pouvoir rien changer du tout, et elle change la donne. Autrement que peut-être mes fantasmes de puissance et de pouvoir me le donnent à croire le plus souvent.
Est-ce que dans la logique du royaume, il faut faire quelque chose? Parce que nous avons vu que celui qui sème, l'homme, bon, il sème, il moissonne, et puis entre les deux, il dort, finalement. Il peut dormir, il peut se lever, mais le processus de vie ne dépend pas de lui. Avons-nous à nous bouger, à faire quelque chose? On parle beaucoup du faire, hein, dans l'Église, les œuvres.
Je pensais à quelqu'un qui... un enseignant qui parlait de l'esprit de Shabbat. Et ça résonne avec votre question pour moi. L'esprit de Shabbat, c'était cet esprit du jour d'après, tous les jours de création. Vous en parliez tout à l'heure, nuit et jour, ça vous faisait penser à la Genèse. L'esprit de Shabbat, c'est dire, c'est pas seulement il y a un temps pour faire et un temps pour faire confiance, c'est est-ce que je peux faire dans le même esprit, dans la même largeur, dans la même confiance que quand je regarde et je fais confiance à ce qui est fait sans moi. Et est-ce que je peux habiter le geste qui me revient? Parce que pour moi, c'est très clair dans ces textes, il y a des gestes qui me reviennent. Le deuxième est même un peu tragique pour ça. Si ce geste n'est pas fait, il ne se passe rien, de semer la graine. Il y a des gestes, si on ne les fait pas, le fruit ne sera pas là. Et je crois que tout l'évangile résonne avec ça. Mais il me semble que tout est dans comment j'habite ce geste que je dois faire. Le souci, c'est quoi? C'est que nous, et on peut le voir avec d'autres textes, nous, dès qu'on se lance dans le faire, on est pris dans une ivresse de faire, très souvent. Et on se met, je crois que c'est vraiment une tentation, une trace de la tentation dans nos vies, on se déporte de la confiance et de la gratuité pour se mettre dans l'évaluation de ce qu'on fait, faire plus, faire mieux, et surtout faire tout seul.
Et parce qu'on nous le demande aussi aujourd'hui, beaucoup.
Parce que la culture promeut énormément ça. Donc l'évangile est une contre-culture, hein. Pour moi c'est très clair et très prophétique pour ce temps-là. Et le choix, ce n'est pas entre cesser de faire et ne plus jamais rien faire, ni passer son temps à faire, évaluer, faire mieux, et finalement centrer toute l'action sur ses compétences, son savoir, son pouvoir, mais habiter le geste autrement.
Merci à vous, Marie-Laure Choplin. Je rappelle les références de la parole que nous avons lue aujourd'hui, c'est chez Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Et je signale aussi que votre nouveau livre vient de sortir chez Labor et Fides. Il s'intitule « Jour de royaume ».
Merci.